Voici votre émission Antiquissimo.
Dédiée, comme son nom l'indique,
à l'Antiquité.
Archéologie.
Reconstitution.
Histoire.
Fiction.
Livre. Et film.
L'Antiquité avec un grand A.
L'Antiquité vivante.
L'Antiquité polymorphe qui nous unit tous.
Alors, bonne année à tous. Sur ce début d'année 2026, c'est grand temps d'émettre plein de vœux. Et je commence justement par émettre tous les vœux de bonne continuation à deux personnes que j'ai en face de moi, que je présenterai dans un petit instant, et à l'œuvre qu'ils ont réalisée tous les deux, mais si j'ai bien compris, beaucoup d'autres aussi en concert avec eux. Cette entreprise, c'est un bureau d'études et de recherche d'archéologie et de conservation. Et j'adore évidemment son nom en bonne latiniste que je suis, ipso facto. Alors, bonjour ipso facto.
Bonjour.
Pour l'instant, c'est assez anonyme. À côté de nous, il y a aussi une jeune stagiaire de 3e qui sera bientôt une brillante archéologue, on n'en doute pas. Et là, pour l'instant, elle est là pour observer, comme moi aujourd'hui, dans ses bureaux et dans cet immense entrepôt dont on va apprendre effectivement qu'il sert à beaucoup de choses et beaucoup de gens. Alors, dans l'ordre, mais ce ne sera pas forcément toujours dans cet ordre-là, je vais d'abord demander à Nicolas de rappeler rapidement son titre, puisque tout à l'heure, on évoquera son parcours.
D'accord.
Donc, Nicolas, c'est Nicolas Carayon.
C'est ça, oui.
Alors, expliquez-nous très rapidement quel est votre titre.
Alors, je suis docteur en sciences de l'Antiquité, archéologue et géoarchéologue.
Et à côté de vous, il y a Alba Ferreira Dominguez. Et vous êtes titulaire aussi d'un doctorat, mais pas tout à fait le même.
Voilà, moi je suis archéologue avec une spécialité en archéologie submarine, subaquatique. Et donc je me suis spécialisée aussi en même temps à l'étude du bois archéologique, ce qu'on appelle la dendroarchéologie.
Voilà, du mot qui désigne l'arbre en grec,
voilà.
Évidemment. Donc voilà les deux personnes qui sont peut-être non pas les personnes essentielles, bien que j'imagine que ce soit le cas, mais vous êtes à l'origine d'ipso facto, tous les deux.
On n'est pas à l'origine d'ipso facto. Ipso facto est à l'origine, c'est essentiellement Mourad El Amouri et d'autres, mais qui est le gérant actuel de la société, le co-gérant, qui est un archéologue plongeur sous-marin.
D'accord. Ouais. Et donc, lui aussi, alors ce ne sera pas tout à fait votre cas, puisque vous faites des allers-retours avec Marseille, si j'ai bien compris.
En fait, j'ai la chance de travailler un peu partout, en Méditerranée. Donc, c'est vrai que je travaille parfois en Croatie, ou parfois je peux avoir des collaborations ailleurs. Donc voilà, je vais aller là où il faut faire l'expertise. Et voilà. Donc ça va.
Et alors, votre très joli accent nous révèle que vous êtes vraiment méditerranéenne, puisque
ouais.
Vous venez d'où ?
Mais moi, je viens de l'Espagne, mais vraiment du côté atlantique, donc la Galice.
Oui.
Mais je me suis fait vraiment méditerranéenne depuis 16 années, aussi en plongeant dans des eaux un peu plus, plus chaudes.
Plus chaudes, oui.
Donc voilà, là, je suis vraiment adoptée méditerranéenne. Donc,
ouais. Très bien. Donc, à l'origine, ce n'est pas tout à fait vous, mais ça fait quand même un bout d'année que sur Arles, s'est créé donc ce bureau ipso facto avec cette personne dont vous venez de parler. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé alors ?
Alors, la société a été créée à Marseille à partir d'un projet de fouilles archéologiques dans le Rhône. Donc, c'est la fameuse épave Arles Rhône 3,
oui,
qui est visible au musée.
Au musée.
Qui est à l'origine un contrat avec des plongeurs et qui est à l'origine de la création de la société. Et ensuite, la société s'est développée. On est essentiellement une société d'archéologie sous-marine. On a été la première à avoir l'agrément pour faire des fouilles sous-marines en territoire métropolitain et d'outre-mer en France. Maintenant, on est deux ou trois sociétés à réaliser ce type de prestations. Et à côté de ces opérations de plongée, on a développé toute une série de spécialités. Donc, Alba avait la dendroarchéologie, on a une spécialiste des marbres, on a une spécialiste de carpologie, donc étudie les graines,
ah oui.
On a une restauratrice depuis l'origine, de la géoarchéologie maintenant, de la modélisation 3D. Donc, on est une petite structure, mais on a développé toute une série de spécialités complémentaires.
Oui, alors c'est justement, j'en profite pour dire que si j'ai eu envie de venir visiter vos locaux et d'échanger avec vous, c'est justement à l'occasion des dernières fouilles qui ont été réalisées dans le Rhône et du compte-rendu qui en a été fait à la presse. Je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait énormément de disciplines archéologiques qui avaient forcément concouru à ce travail. Et votre bureau en est l'exemple parfait. Et ça devrait donner l'envie à plein de jeunes de se lancer dans l'aventure, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup à faire. Hein. C'est à la fois des choses qui sont, je dirais, livresques, théoriques, et puis plein de choses qui relèvent de la pratique et de l'art de la restauration, puisqu'on est à mi-chemin entre la science, la plongée, les découvertes archéologiques, mais aussi l'art. Donc, ce bureau s'est formé comme ça, donc ça fait une vingtaine d'années.
Oui.
Et vous vous connaissez tous bien maintenant.
Oui, ça va. On commence à bien se connaître.
Alors, quel est par exemple votre dernier travail d'équipe ? Puisque ce que j'ai déjà compris en arrivant dans cet immense hangar, c'est qu'il y a un esprit d'équipe assez fort et l'idée que tout doit être mutualisé, en particulier le matériel.
Alors, beaucoup de matériel est mutualisé, pas tout le matériel, parce qu'après on a chacun des spécialités.
Bien sûr.
Mais alors les travaux communs, alors sur Arles, je travaille pas mal avec une société qui est ici, qui s'appelle Géopath, qui fait de la géophysique, et on collabore ensemble sur un projet collectif de recherche sur le port antique de Fréjus. Donc eux s'occupent de la géophysique, moi je m'occupe de faire des carottages sédimentaires, et ensuite l'équipe de Fréjus, donc de la direction de l'archéologie du patrimoine, gère la fouille archéologique et la présentation au public des vestiges découverts.
D'ailleurs, puisque vous parlez de Fréjus, où il y a un vivier que j'ai trouvé assez extraordinaire, j'ai vu aussi que vous aviez travaillé sur un vivier près de Narbonne.
Oui, j'étais encore un jeune homme à l'époque. Oui, j'ai eu la chance de diriger la fouille d'un vivier monumental d'époque augustéenne.
Oui. Alors, je ne connais pas, il se visite
Non, il ne se visite pas. Alors, il est en dehors de la zone urbaine de Narbonne. À l'époque, c'était un terrain privé. Et dans une zone lagunaire, il est situé au niveau de la lagune à peu près, donc soumis au battement de la nappe et de la lagune, ce qui peut causer des problèmes. Si on le laissait ouvert, ça causerait des problèmes de conservation et de préservation. Donc du coup, il n'est pas visitable.
Oui, parce que j'ai, du coup, en enquêtant, entre guillemets, sur votre métier et vos pratiques, j'ai vu ça, je me suis dit, mais je ne l'ai jamais visité, donc j'ai voulu chercher le contact, et je ne l'ai pas trouvé quoi, pour visiter.
Alors, il y a un projet de mise en valeur. Il ne sera pas réouvert parce que il est classé monument historique depuis la fouille. Mais il y a un projet de mise en valeur et de restitution dans le paysage de son emprise. Il est assez monumental. Il fait 70 mètres à peu près de diamètre. Bon, c'est un bel objet archéologique.
Oui, parce qu'il y avait une vidéo proposée pour voir, puisqu'on ne pouvait pas approcher. Mais effectivement, pas de coordonnées de visite. Donc, j'en avais déduit effectivement que il fallait se contenter pour l'instant de la vidéo.
Exactement.
Donc, c'est ce projet que vous avez eu récemment, donc c'était sur Fréjus.
C'est ça. Alors, c'est un projet collectif de recherche qui a commencé en 2020 et qui se poursuit. On a fini la sixième année et la sixième année. On a fait pas mal de fouilles, des études géo-archéologiques, donc d'archéologie des paysages, de l'exploration géophysique, de l'étude des matériaux. Et on a eu la chance de fouiller un quai romain construit sur des caissons en bois. Alors, ça a été l'opportunité pour nous de travailler avec Alba.
Il restait beaucoup de choses de ces caissons en
bois ? Il est totalement conservé. Et du coup, c'est le paradis pour Alba.
Ouais. Donc, il faut vous imaginer là-bas en tenue de plonger constamment.
Il est à terre.
Il est à terre.
Alors, le port est ensablé, donc on fouille en domaine terrestre. Alors, on commence à sec, mais on finit rapidement dans l'eau. Mais ce n'est pas de la plongée, c'est pas de l'archéologie sous-marine, c'est de l'archéologie terrestre. On est dans la boue, on va dire.
D'accord, c'est moins agréable quand même. Mais on y voit plus clair, parce que là, dans le Rhône, par exemple, je pense souvent que ça doit être terrible de plonger, parce qu'on ne doit pas avoir grand-chose. Hein.
Voilà, mais ça a été ma première expérience cette année. Et je n'ai pas eu beaucoup de chance parce que j'étais censée devenir juste dans deux périodes où il y a eu justement des pluies les jours avant. Donc, je n'ai pas pris la bonne période pour découvrir le Rhône. Donc, c'était un petit peu compliqué au niveau de la visibilité. Mais après, voilà, c'est la réalité aussi de notre travail. C'est que parfois, on est dans soit l'eau froide, soit l'eau très chaude, soit un problème de visibilité. Donc, on va dire qu'on va s'adapter en fonction des conditions.
Et oui, parce qu'il y a tous ces paramètres qu'on imagine, mais il y a aussi, s'il y a eu un coup de vent et des courants, ben, aussitôt, voilà, tout ce qu'on devait voir est masqué.
En fait, pour moi aussi, ça a été le fait d'avoir le courant, la manque de visibilité, mais aussi le courant, qui rend juste la plongée un petit peu plus sportive. Mais aussi, il faut, voilà, au niveau de documenter les vestiges, on va être un peu plus limité. Donc, on va devoir aussi improviser un petit peu chaque jour en fonction des conditions, des équipes, des travaux qu'on va faire chaque jour en fonction de la visibilité. Et donc, voilà, ça a été une découverte pour moi. Ça a été sympa et ça a été sportif. Et voilà, donc c'est pas tout le temps comme ça, oui. Heureusement.
Et alors là, c'était votre dernier chantier, celui-là, ou entre-temps, vous avez fait autre chose? Alors, ça, c'était au mois d'août, en gros, hein, c'est ça?
Oui, mais alors, moi, j'étais au niveau des plongées, j'étais après aussi en Croatie, sur une épave de la période antique. Et puis après, j'ai fait pas mal d'émissions, mais terrestres, où voilà, je vais soit dans des laboratoires qui sont en partenariat avec nous, soit faire des études en laboratoire. Mais voilà, au niveau de la plongée, cette année, j'étais en France, mais aussi en Croatie.
D'accord. Et donc, les projets à venir, c'est donc cette fouille qui n'est pas finie, vous, la sixième année qui commence sur Fréjus.
Oui, c'est ça.
Et vous, alors, qu'est-ce qu'il y a en préparation?
Alors, nous avons, comme chaque année, les fouilles qui sont dans les cadres des chantiers-écoles du MOMARC. C'est un master d'université ex-Marseille, dans lequel ipso facto a la chance de collaborer depuis des années. Et en fait, moi, je suis une ancienne élève de ce master. Et donc, notamment, ipso facto m'a encadré aussi pendant mes années d'études dans ces masters. Et je suis devenue...
Et vous transmettez voilà, maintenant, c'est formidable. Maintenant,
donc, on enseigne aussi aux élèves qui sont inscrits dans ces masters, pas seulement au niveau de la théorie, mais aussi sur des vrais chantiers, avec des vraies problématiques scientifiques. Donc, on n'est pas là pour faire une scène, on est sur des vrais chantiers. Donc, on voit aussi, pour les étudiants, c'est important de voir la réalité... qu'il y a sur les fouilles, et aussi ces problèmes des conditions, de aussi répondre à des problématiques. Et voilà. Donc, ils travaillent aussi donc, avec une entreprise comme ipso facto, mais aussi avec le DRASM, le département d'archéologie subaquatique, qui se trouve aussi à Marseille, et avec des gens du CNRS. Donc, c'est aussi très, très enrichissant. Donc, ça va être une des fouilles dans laquelle on va être censé d'intervenir.
Donc, c'est des stages qu'ils ont aussi pour apprendre sur le tas, si j'ose dire.
C'est ça. Oui. Voilà, ils vont, pendant l'année, voir un peu la théorie avec différents profs, différentes personnes qui vont venir enseigner la partie plus théorique. Et puis, chaque année, donc les M1, puis les M2, chacun, il va avoir, on veut dire, un chantier école dans lequel nous, on ne va pas seulement les encadrer à terre, mais aussi sous l'eau. C'est-à-dire, ils vont être encadrés par nous. Donc, sous l'eau aussi, on va devoir travailler ensemble. Et ça nous permet de mettre en pratique ce qu'ils ont appris pendant l'année. Et donc, chaque année, ils vont avoir, dans la première année, ça va être un site portuaire. L'année dernière, c'était à Sainte-Marguerite, à Cannes. C'est une île qui est devant, oui. Devant Cannes. Et puis, il y a les M2 qui vont déjà aller sur une épave, qui c'est aussi un vestige beaucoup plus sensible. Donc, ils sont censés déjà d'aller en M2. Et là aussi, on va pouvoir participer sur une épave aussi qui se trouve à Martigues. Donc, ça va être les deux fouilles dans lesquelles on est vraiment censé d'être là.
Et ça, c'est au beau jour ou alors, oui, c'est plutôt au printemps que ces stages ont lieu.
Oui, ça va être peut-être en avril et en mai.
Avril, mai.
D'accord, très bien.
Et puis, il y a le chantier d'Arles qui reprend.
Ah, oui, bien sûr.
Évidemment, oui. Le gros chantier d'Arles.
C'est ça. Ça sera plus tard peut-être.
Septembre, août septembre, ouais. Oui.
Oui, voilà, en principe, c'est l'été, hein, ça.
Oui. Oui.
D'accord, très bien. On marque une toute petite pause musicale et on se retrouve dans quelques minutes. Antiquissimo, deuxième partie. Et nous sommes à Ipso Facto à Arles. Décidément, il y a beaucoup d'émissions cette année que nous aurons consacrées à Arles. Et je suppose que vous connaissez mes interlocuteurs précédents ou futurs, Claude Sintès, peut-être que ça vous dit quelque chose ici à Arles. Évidemment, David Jaoui, tous ces gens-là sont vos familiers. Alors, je vais commencer cette fois-ci, dans l'ordre inverse de tout à l'heure, de vous demander, Alba, comment vous êtes arrivée à ça? C'est-à-dire, première question très banale, mais elle m'intéresse toujours. Est-ce que quand vous étiez petite, vous rêviez de faire ce métier ou pas du tout?
Mais moi, en fait, j'avais un livre sur mon étagère, parmi d'autres, qui était un petit livre de poche de Pompéi. Et je me souviens de regarder, voir les statues, et ça m'a toujours provoqué de la curiosité. Je voyais du pain brûlé. Donc je me suis toujours demandé, maman, qu'est-ce qu'il faut faire pour découvrir ces choses-là? Et donc j'ai découvert le mot archéologie, et c'est vrai que j'étais depuis très petite avec cette rêve dans la tête. Et donc, voilà, j'ai fait mes études.
Et alors, est-ce que quand vous étiez petite, vous avez fait des études avec les langues anciennes? Est-ce que vous étiez passionnée d'histoire ou bien ça s'est venu après?
Non, c'est vrai que j'ai toujours choisi mon parcours vers les lettres. J'ai fait du grec, du latin, du paléo-babylonique. J'ai fait des choses très bizarres. Et vraiment, je me suis après spécialisée. Donc, déjà, j'ai fait la carrière d'histoire après. Et ensuite, archéologie avec... Pendant tous mes étés, je faisais des chantiers partout en Espagne.
Et puis là, en Espagne, moi, j'y vais assez souvent et je me passionne parce que je suis en train de travailler sur le poète Martial qui est né près de Saragosse et qui est devenu mon ami, on va dire. Et je m'aperçois que l'Espagne, elle est vraiment remplie de tous ces vestiges, que les gens sont pétris de cet univers.
Oui. Oui, c'est ça. Et après, c'est notre travail aussi de le rendre visible. Justement, quand tu es en train de fouiller sur des chantiers, on se rend compte aussi que parfois, sont peut-être parfois mal expliqués au public.
Oui.
Et c'est aussi un travail qu'on doit faire de bien expliquer ces vestiges aux gens. Parce qu'à la fin, tu te balades dans un site archéologique.
Et tu vois rien parce que tu n'as pas les clés. Voilà.
C'est compliqué à comprendre. Nous, en fait, on regarde un chantier, on voit les bâtiments presque entiers pendant qu'on regarde. Donc ça, c'est aussi un des travaux, un de défis qu'on a les archéologues pendant qu'on fait nos études, c'est de les rendre visibles.
Et alors, récemment, il y a une université espagnole, je crois, en collaboration avec le Danemark, une université du Danemark, qui a établi tout un réseau de cartes routières numériques extraordinaire aussi. Hein. Alors, ça, c'est une chose passionnante, mais aussi, on arrive à la dendrologie. Comment est-ce qu'on a l'envie de devenir dendrologue?
Mais en fait, c'était vraiment par hasard, parce que donc, je voulais venir en France pour faire mes études de master. Et j'étais obligée à m'inscrire dans un sujet. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais fait vraiment des chantiers de toutes les périodes. J'étais sous l'eau, à terre. Donc, j'avais tout fait pendant ma licence. Et à un moment donné, donc, pour m'inscrire, ils m'ont proposé un sujet. Ils m'ont dit, est-ce que tu voudrais faire des identifications du bois, des épaves qu'on découvert, des épaves antiques qu'on découvert à Toulon? J'étais tellement désespérée pour venir en France et pouvoir... C'était vraiment... J'ai dit, je prends ce que vous voulez.
Ouais.
Et c'est vrai que j'ai regardé sur Google xylologie, donc, parce que je ne savais même pas qu'est-ce que c'était. Et en fait, petit à petit, j'ai accroché sur les sujets et ça a été pour moi un monde incroyable. Donc, l'étude du bois archéologique, je me suis plongée littéralement. Et j'ai découvert aussi qu'il y a vraiment un gros besoin de cette discipline parce que voilà, le bois, on va le découvrir.
En fait, ça disparaît, mais on en trouve des traces partout, en fait.
C'est ça, en fait, le bois, aussi sous l'eau, ça se conserve particulièrement bien. Et en fait, aussi, c'est un matériel de construction de base. Tous les bateaux anciens sont construits entièrement en bois, bon, parfois avec des petits ajouts, mais on va dire que l'escalier, ça va être en bois. Et donc, en fait, on va les découvrir tout le temps. Et il n'y a pas beaucoup de spécialistes. C'est vrai qu'aussi, le fait de plonger et avoir la discipline, donc c'est aussi un mélange que j'ai trouvé très intéressant à faire.
Alors, ce mélange, vous faisiez de la plongée avant déjà ou pas du tout?
J'ai fait la plongée pour faire l'archéologie subaquatique, donc pendant ma licence. Je me suis dit, je veux voir si j'aime, parce que c'est vrai...
Oui, c'est pas évident.
Ouais. J'étais en Galice, l'eau, elle était froide, la visibilité aussi, ça. J'ai dit, je vais voir si ça me plaît.
Oui.
Et tout de suite, je me suis sentie très à l'aise dans l'eau, et donc j'ai mélangé ces deux mondes que j'ai beaucoup aimés. Mais on va dire que je fais la plongée pour faire l'archéologie sous-marine. Ça n'a pas arrivé à l'inverse.
Et là, ça veut dire qu'il faut avoir une personnalité complète, parce qu'il faut être à la fois dans le concret et le théorique, comme j'ai dit, à la fois scientifique et tourné vers les sciences humaines. C'est un mélange étonnant.
Oui, après, c'est vrai que la plongée, pour nous, c'est juste un moyen de faire notre recherche. Voilà, c'est comme marcher sur un chantier. Nous, on doit plonger. Donc, pour moi aussi, parfois, je le vois juste comme un moyen d'accéder aux vestiges, et un moyen d'accéder aussi aux réponses que je cherche. Et voilà. Mais après, on est dans, ce qui est bien aussi, il y a des côtés positifs. Par exemple, fouiller une épave qui est sous l'eau, dans laquelle on flotte, ça veut dire qu'il ne faut pas s'appuyer. On peut flotter, on peut naviguer vraiment autour des vestiges sans devoir marcher. Quand on fait une fouille d'une épave à terre, on va galérer, enlever de l'eau, c'est beaucoup plus compliqué, c'est du bois, on ne peut pas marcher au milieu. Donc voilà, l'effet de plongée, ça a beaucoup aussi de choses positives pendant l'étude.
Et alors, pendant les années d'études, forcément, alors on fait de l'histoire, on fait des langues anciennes, tout ce qu'on peut imaginer autour de l'archéologie, mais du coup, on étudie les végétaux d'une manière vraiment précise aussi, pour les connaître. Ou alors c'est toujours les mêmes bois, ou comment ça se passe?
Non, justement, il y a donc le bois, il va suivre un choix. Ces choix, ça peut parfois répondre à la disponibilité qui est proche au site dans lequel ces vestiges ont été découverts. Ça peut être aussi un choix sur les propriétés. Est-ce que je veux un bois dur, un bois flexible? Est-ce que je veux un arbre qui soit très long, très élancé, ou je veux plutôt un arbre plutôt joli, esthétique, pour faire quelque chose de décoratif? Donc en fait, on va essayer de comprendre ces choix à travers l'étude que je veux pouvoir mettre en place. Aussi, quelles sont les parties des arbres qui ont été employées? Aussi, est-ce que je veux plutôt des arbres à croissance rapide, à croissance lente? Est-ce que la mécanique, les propriétés changent? Donc, on va rentrer dans les têtes des charpentiers. Parfois, c'est par hasard. Parfois, c'est pas par hasard. Et on va essayer de décrypter ces choix.
Ça donne vraiment envie. Maintenant, il faut que je partage le temps équitablement pour m'intéresser maintenant à Nicolas et à sa discipline, parce que lui aussi, il fait beaucoup de choses, on va dire, en général, mais en particulier, quelle est votre spécialité? Alors, et comment y êtes-vous arrivé?
Alors, ma spécialité, c'est la géoarchéologie et en particulier l'archéologie des paysages littoraux. J'y suis arrivé en faisant un doctorat sur les ports phéniciens et puniques, et c'est un cursus totalement archéologique et historique, donc à partir des sources archéologiques et des sources littéraires antiques, mais je me suis rapidement rendu compte que l'essentiel de l'étude reposait sur l'évolution du paysage et que l'essentiel des ports antiques était essentiellement naturel. Donc je me suis tourné vers la géoarchéologie, la géomorphologie, pour comprendre ou reconstruire des paysages littoraux disparus en raison de l'érosion, de la sédimentation, de la progradation de la côte, les changements du niveau de la mer.
Comme à Apollonia, la ville qui glissait comme dans un ascenseur.
Exactement, ouais. Exactement. Donc, dans le cours de ma thèse, je me suis tourné vers des professeurs de géomorphologie, notamment Christophe Morange à Aix-en-Provence. J'ai pu faire des chantiers avec lui, apprendre à faire des carottages, à étudier les carottes. Et alors, même si je reste un archéologue, j'ai accroché une nouvelle corde à mon arc, qui est de la géomorphologie, où j'étudie pas du bois comme Alba ou de la céramique comme d'autres collègues, mais plutôt du sédiment. J'étudie des archives sédimentaires qui, lorsque l'on fait des carottages en profondeur, on remonte dans le temps et on peut reconstruire l'évolution d'un paysage à un point donné depuis 2, 3, 5, 10 000 ans.
Alors vous aussi, c'était tout petit que vous aviez conçu cette passion?
Non, c'est venu plus tard, c'est venu en terminale où on se cherche un petit peu, passer le bac et... Il y a un choix à faire après le bac, et moi j'ai choisi de faire de l'archéologie parce que c'est quelque chose. Comment dire, c'est un petit peu sans fin, L'objet n'est pas un objet fini, c'était ce côté qui m'intéressait. Donc j'ai suivi le parcours histoire de l'archéologie en DEUG à l'époque, c'était encore les DEUG, licence, et ensuite je suis parti à Strasbourg faire une maîtrise, un DEA d'archéologie, et ça. J'ai commencé sur les ports phéniciens, sur l'étude des ports, et ça m'a beaucoup plu, cet aspect déjà proche du terrain et l'évolution des paysages avec les interactions entre les hommes et la nature. Et j'ai poussé ça dans mon doctorat, et maintenant ça fait presque 30 ans que je fais ça, et ça me va très bien, je suis très content.
Et c'est très varié, de sorte que vous en lassez pas du tout?
Oui, c'est très varié, parce que les domaines, alors déjà les terrains sont différents, on travaille à Fréjus, à Arles, on a parlé de Narbonne, je travaille au Liban, j'ai pu travailler un peu partout en Méditerranée, donc déjà plutôt des endroits charmants, et ensuite tous les terrains sont différents, on a des lagunes, on a des rivières, on a des sites qui s'enfoncent, des sites qui au contraire remontent, des sites qui s'érodent, des sites qui au contraire progradent, donc il y a toute une diversité, la diversité des équipes, et puis le travail, on a le terrain, et le laboratoire, et après l'écriture, donc on partage notre temps, donc on n'a pas le temps de se lasser de chacun des lieux de travail.
Parce que ça, on ne le mesure pas, c'est qu'on voit toujours, on vous voit en action ou on ne vous voit pas parce que vous êtes sous l'eau. Mais après, il y a tout ce temps du bilan et de l'écriture, et ça doit être très très long.
C'est l'essentiel du... Oui, pour un mois de fouille, c'est 6 mois de travail. Ensuite, c'est la face cachée de l'iceberg, c'est le côté immergé, oui. Oui, il y a un ratio qui est peu de terrain et beaucoup de travail. Le labo en particulier prend beaucoup de temps. Je pense que pour Alba, c'est la même chose.
Oui, c'est ça.
On est souvent tout seul face à notre binoculaire ou face à notre ordinateur. C'est surtout...
Oui, et qu'est-ce qu'on ferait sans l'ordinateur maintenant? Ce serait impossible. Dernière question, on n'a pas fait le tour de tout, mais c'est juste, j'allais dire, peut-être un apéritif pour en savoir une autre fois encore plus. Quand est-ce qu'on fait appel à Ipso Facto?
Dès que nécessaire, le plus possible. Alors, déjà, on est quand même identifié depuis notre doctorat, on fait des publications scientifiques, donc dans notre monde de spécialistes, on est assez bien identifié, je pense. Donc, on a tout un réseau avec des gens avec qui on travaille sur des problématiques précises. Bon, les gens dans le sud de la France, en Croatie ou en Espagne connaissent Alba pour ses compétences. J'espère que dans le monde de la géoarchéologie littorale, je suis aussi identifié, donc on peut nous appeler.
Oui, il y a beaucoup de choses sur vous, hein, je peux vous le dire.
Après, oui, c'est un métier de réseau, de spécialité. On se retrouve, c'est un petit monde, on se connaît tous plus ou moins. Ça reste des niches. Hein, on n'est pas très nombreux dans nos domaines, donc finalement, les gens, on est assez identifiables. Mais si vous avez un site portuaire à étudier, faites appel à nous. Si vous avez
je vais réfléchir, je dois bien avoir ça.
On a tous ça quelque part.
En tout cas, vous êtes facile à trouver, facile à contacter, et j'espère que vous allez continuer encore longtemps comme ça. Juste un chiffre pour terminer, il y a combien de personnes qui travaillent à Ipso Facto, est-ce que vous le savez?
On est une douzaine.
Douzaine.
10 associés et 2 salariés.
Ben, merci beaucoup et à bientôt, j'espère.
Merci beaucoup.
Merci.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.